Ah oui, monsieur le ministre est en retard, monsieur le ministre, pourquoi vous êtes en retard?
Toujours en retard.
Toujours en retard. C'est de circulation, madame.
Ah oui, c'est dur,
non? Monsieur le ministre, c'est le directeur. Mesdames, messieurs, il n'existe pas de département d'instruction publique sans justification publique. Indépendamment de ce que l'organisme vient de dire, contrairement à ce que vous pourriez penser, il faut tout justifier au département de l'instruction publique, y compris un ordre. Le meilleur moyen de faire les justifications, y compris devant le président de ce propre département, que j'ai accueilli pourtant la première fois dans cette eau-là, avec un laconisme et un spartiatisme qui m'est d'ailleurs inhérent, j'avais l'idée de sortir un simple tourne-disque pour l'accueillir au son d'Aïda ou du Freischütz, ce qui lui certainement apprécié, comme il l'eût fait d'ailleurs dans sa carrière belétrienne, mais je crois que je vais utiliser une autre argumentation. En effet, lorsqu'on veut justifier quelque chose, nous avons quelques philosophies à notre ressource. C'est ainsi que, par exemple, qu'on peut utiliser la théorie stoïcienne de l'analogie. Elle permet tout, elle est d'ailleurs meilleure que la dialectique marxiste sur ce point-là, et permet de démontrer d'ailleurs à peu près n'importe quoi. Mon n'importe quoi a tout de même une certaine noblesse, remarquez bien. La première analogie que l'on peut faire, c'est l'analogie lexicologique. Prenez un bon dictionnaire et reprenez l'article org. Il est judicieusement placé entre orgie et orgueil. Je laisse à vos imaginations, à vos métaphores, etc., cet effort nécessaire pour évoquer naturellement les fastes de l'orgueil, bien entendu, vous l'avez deviné. La prochaine étape, et naturellement tant attendue après la lexicologie, c'est l'analogie grammaticale. L'analogie grammaticale dans un français encore non rénové, qui place le mot « orgue », suivant qu'il est singulier ou pluriel, avec des genres tout à fait différents comme on sait, et qui permettent des exercices orthographiques parfaitement délicieux pour les élèves, et qui, néanmoins, procure dans la civilisation dans laquelle on vit maintenant une égalité entre le féminin et le masculin d'assez bonne aloi. Vous voyez que les justifications ne manquent pas et que l'on peut prouver que la présence d'un instrument comme celui-ci répond aussi à certains phénomènes sociologiques. L'analogie littéraire. L'analogie littéraire présente quand même des aspects beaucoup plus intéressants. Ceux qui ont eu l'occasion de lire leur brochure tout à l'heure auront vu que les pièces de cet orgue était frappé du sigle CLAP. C'est à peu près le même signe que j'emploie d'ailleurs sur des bordereaux financiers pour retour au département. Ceci pour mes collègues qui savent le langage ésotérique que l'on emploie dans ces circonstances-là. Mais le côté littéraire est tout de même très intéressant. Clapham Junction, où était placé l'orgue, a deux références littéraires au moins. Celle d'Oscar Wilde, qui, envoyé aux travaux forcés, y a écrit l'un des plus beaux poèmes du XXe siècle, la ballade de la géole de Reading, ce qui est assez curieux, c'est une évasion qui n'est certainement pas celle que la musique vous suggérera tout à l'heure, mais enfin, il s'agissait de la rappeler. Et puis, il y en a une autre qui est tout aussi intéressante, c'est la proximité immédiate à côté de ce cinéma Granada d'où provient cet orgue, et là, je n'affabule rien, je n'invente rien, vous pouvez rentrer chez vous et consulter un plan de Londres, la rue qui descendait particulièrement sur ce cinéma n'est jamais que celle de Land Road, le célèbre poème d'Apollinaire sur les migrants, celui qui rentrait chez son tailleur pour se faire habiller. Et il faut reconnaître ici que l'orgue s'est fait habiller d'une manière fort curieuse pour franchir la Manche, parce que c'est le dernier élément culturel, à part le portail de Hermès peut-être, que l'Angleterre ait jamais délégué sur le continent. Enfin, il faut faire avec tous ce que nous avons, mais ces deux références, à la fois surréalistes et poétiques, ne manquent pas de justifier tout cela. Jusqu'à présent, me direz-vous, c'est de l'anecdote. Est-ce que l'on passe à un stade supérieur? Eh bien, le stade supérieur, c'est la philosophie d'un instrument comme celui-ci. En effet, l'historique que vous a brossé rapidement M. Richmond tout à l'heure commence à peu près au début de ce siècle, 1912 à peu près, mais l'orgue, en fait, remonte bien plus loin dans le temps. L'inventeur de l'orgue n'est autre que Platon. Mais oui. Tout le monde lit autre chose de Platon, mais il y a les traités hydrauliques de Platon, et Platon avait trouvé le moyen de joindre l'orgue hydraulique avec une application assez curieuse qui était celle d'une clepsydre qui marquait les heures pendant la nuit au moyen de flûtes, puisqu'on ne pouvait pas lire l'heure pendant la nuit. Ce qui est très intéressant, c'est le travail de troisième cycle que l'on arrivera à faire avec une découverte comme celle-là, parce que ça jette un jour nouveau, je m'excuse d'employer une expression comme celle-là, son mythe de la caverne et les réfléchissements que l'on y trouve. Mais enfin, il faut savoir que Platon est à l'origine de ces œuvres. En fait, Platon avait été devancé quelque peu par, nous apprennent les philologues, par certains Ctesibius, querelle philologique admirable, parce qu'on n'a jamais su si Ctesibius était un fabricant de parfums et d'onguents pour la reine Cléopâtre, ou bien si c'était un mathématicien de l'école d'Alexandrie. Néanmoins, c'est lui qui a dressé la première description dont s'est emparé Vitruve, et que vous retrouvez d'ailleurs rapidement esquinté dans la brochure qui vous a été distribuée. Je pourrais rapidement terminer d'ailleurs en vous disant que par une analogie assez curieuse, j'y reviens, on installe un orgue dans une école, mais curieusement les orgues hydrauliques ont complètement disparu de la circulation au moment où Charlemagne régnait. Donc l'inventeur des écoles serait aussi celui qui a peut-être, à ce moment-là, supprimé ce genre d'orgue, musique qui était considérée par les anciens comme la musique la plus parfaite, l'instrument qui accompagnait aussi bien les nostalgies des riches grecs ou romains, ou des jeux parfois moins avouables comme ceux du cirque ou de l'amphithéâtre. Je ne résiste jamais à la récitation, au risque de déplaire d'ailleurs au président, parce qu'il rappelle chaque fois que fut un temps où je savais faire celle-ci par cœur sans avoir besoin de les lire. Il oublie tout simplement que les citations olympiennes ou d'Alfred Jarry sont peut-être plus faciles à faire que celles de Cicéron. Et on trouve dans les Tusculanes, livre 3, chapitre 43, ça fait assez dimanche matin, mais ceci c'est aussi un petit peu pour mes collègues du D8 qui me disent que c'est le seul collège où on trouvera les tuyaux percés et qui sera ouvert le dimanche matin à des fins religieuses, mais ceci n'est que Bill Vesey et Roupie de Sansonnet, bien sûr, mais je trouve cette phrase de Cicéron digne de figurer une fois à la maturité de latin de l'un ou l'autre de nos collèges. C'est un traité philosophique et stoïcien de surcroît. Si tu vois quelqu'un des tiens accablé par désespoir, lui donneras-tu un esturgeon, ça c'est le standing romain, plutôt qu'un traité sophatique? L'engageras-tu à entendre un air d'orgue hydraulique plutôt que la voix de Platon? La citation est authentique, vous pouvez la vérifier, et c'est là-dessus que je conclurai rapidement, parce que c'est l'ordre qui nous attend plutôt que des considérations philosophiques, mais vous voyez à quel point le soutien logistique au point de vue philosophique, littéraire, voire antique, dans un collège qui se pique de former les élèves à toutes sortes de théories abstraites, confuses, et d'autres supercheries universitaires, il était absolument nécessaire de faire ces allusions à l'historicité d'un instrument que le département de l'instruction publique finalement nous enverra bien.